Posons-nous les bonnes questions pour accélérer la transition écologique des collectivités. Avec Territoire et Sobriété, le podcast de l'ADEME et du ministère de la Transition écologique, partons pour un tour de France d'initiatives locales en faveur de la sobriété matérielle. Retrouvez les épisodes sur www.epargnonoresources.gouv.fr/collectivité.
BFM Business, la parole aux entreprises qui recrutent. Le Club Média RH, Alexandre Lichamp.
Bonjour et bienvenue au Club Média RH. On ouvre grand les portes pour vous présenter nos invités qui sont déjà dans le studio. Il s'agit d'abord de François Lambert, qui est directeur général de l'école de l'ENSM, l'École nationale supérieure maritime. On manque d'ingénieurs qualifiés dans la marine. On va en parler. C'est un vrai grand sujet. En deuxième position, décryptage avec Albert Reynaud, qui est cofondateur de C-Mana, créé en 2020. On fera le point encore une fois sur le travail hybride. Comment concilier à la fois l'hétérogénéité du travail hybride et du full remote. Des vraies pistes sont engagées. Enfin, la start-up qui cartonne et qui recrute, Jean de Varine Bohan, fondateur de Ligerio, sera là pour nous parler des 6 postes à pourvoir en CDI.
BFM Business, le Club Média RH, l'entreprise qui recrute.
Bonjour, je suis ravi de faire votre connaissance, François Lambert.
Bonjour Alexandre.
Alors vous êtes le DG de l'ENSN. Je ne connaissais pas l'École nationale supérieure, l'École maritime, c'est ça? L'École nationale supérieure maritime. Voilà, dans cet ordre-là. Alors on va parler de votre école. Vous êtes à la recherche, d'hommes et de femmes, d'officiers qualifiés, hommes, femmes, officiers qualifiés, parce que la France en a besoin. Je dis la France et vous allez comprendre pourquoi j'utilise volontairement ce mot-là. J'ai découvert en lisant votre petit dossier, je ne savais pas, avant de vous donner la parole, que la France possède la deuxième plus grande surface maritime au monde, juste derrière celle des États-Unis. Donc on a une surface maritime énorme au monde. Et deuxième point, depuis le 1er janvier 2022, la flotte française de commerce comptait 425 navires. Maritime. On apprend des choses. J'espère que vous allez, comme moi, apprendre aussi aujourd'hui beaucoup de choses. Et en septembre 2021, voilà le point de départ de notre échange, le président de la République a demandé, a appelé à aller au plus vite pour refaire de la France une grande puissance maritime, d'où le rôle de votre école. Alors on voit, pour ceux qui nous suivent sur BFM Business TV, des images, pour BFM Business Radio, on va essayer de donner de l'image par la radio. La marine marchande, c'est le cœur navigant de l'économie française.
Absolument.
C'est ce que vous affirmez.
Oui, c'est une belle image, c'est-à-dire que au centre de la galaxie maritime, nous avons la marine marchande. Et il se trouve que l'École nationale supérieure maritime, les anciennes écoles de la marine marchande, forment les officiers de la marine marchande française. Nous avons le monopole en formation initiale. Donc le NSM, l'École nationale supérieure maritime, c'est une école qui remonte à 2010 dans sa formation actuelle, mais qui a une très très grande histoire. Ça remonte à Charles IX et la bataille de Lépante, à laquelle la France n'était pas. On envoyait à bord des navires de Malte et de Nice quelques mercenaires, et puis à ce moment-là la grande histoire entre la France et sa marine marchande a commencé. Colbert a fait le reste, et puis le 19e siècle, et on a structuré autour de la logique de pavillon français, la perspective d'avoir des officiers de la marine marchande à bord des navires français sur toutes les mers du monde.
Alors en 2022, l'ENSM aura formé, on arrive à la fin de l'année, 1200 élèves à une dizaine de diplômes, et le tout sur 4 sites. D'abord, où sont les sites de formation de votre école?
Les sites sont le
Havre. La mer.
Ils sont au bord de la mer.
Minimum.
Le Havre, Marseille, Nantes et Saint-Malo. Nous avons 4 sites qui sont des anciennes écoles nationales de la marine marchande et qui
Pourquoi
sont
est-ce qu'on a changé
complémentaires. En 2010, 1er octobre 2010. On l'a changé parce qu'en fait, on a uni ces différentes écoles. On en a fait un seul établissement public.
On aurait pu garder le nom. Il était clair.
Alors, il était clair, oui, plus ou moins, puisqu'en fait, il y avait une autre ambition derrière. C'était d'arriver à obtenir un diplôme d'ingénieur. Et donc, aujourd'hui, nos officiers de la marine marchande, ceux qui sont diplômés sur un des diplômes que vous évoquiez, sont également des ingénieurs navigants. Et puis nous avons un autre parcours qui est ingénieur en génie maritime, qui est dispensé à Nantes. Et là aussi, le taux d'employabilité est très important, puisqu'on est à 100%, même si cette formation est très jeune.
Alors je disais 1200 élèves formés en 2022. De toute façon, l'école est reconnue pour l'excellence de ces 3 formations, vous venez de le dire. Officier ingénieur, chef de quart, chef mécanicien, officier chef de quart passerelle internationale. De toute façon, tous les élèves de votre école ont pour vocation à exercer des fonctions de capitaine vous allez me dire si c'est bien ça, hein, de capitaine et de chef mécanicien qui sont les comment dire, les plus élevés.
Absolument, c'est une école de commandement.
À bord.
Il y a aussi
une école de management.
C'est une école aussi de management, oui. Effectivement, surtout sur le parcours de diplôme, le diplôme d'études supérieures de la marine marchande, le diplôme d'ingénieur polyvalent. Vous parliez du pont et de la machine.
Ouais.
Là, c'est vraiment une école de management et de commandement qui peut amener à commander parmi les plus grands navires du monde. Vous parliez de la flotte française. La flotte française, c'est MSCGM. Je pense à des navires qui font 22 000, 24 000 équivalent 20 pieds. C'est des navires énormes et il y a une responsabilité qui est immense pour les navigants français.
C'est une formation accessible, d'excellence, accessible post-bac. On va donner quelques infos, je le répète. Et si vous êtes là, j'ouvre la petite parenthèse, mais tout le monde l'a compris, c'est qu'on va parler de recrutement. La France a besoin d'avoir de trouver et de former de nouveaux navigants.
Absolument, et vous rappeliez l'injonction du président de la République qui veut refaire de la France une puissance maritime. C'est une chance pour nous. La France est une puissance maritime, oui, qui s'ignore de temps en temps, puisqu'en fait, on n'arrive pas à faire fonctionner ensemble nos différentes composantes. Mais ça, d'accord, c'est une autre question.
Oui, c'est pas le débat.
C'est pas le débat, mais on a une économie maritime qui est vive et qui cherche à se développer. Au centre de cette économie, une nouvelle fois, la marine marchande et un besoin d'officiers.
Combien d'officiers faudrait-il trouver ?
Le président de la République nous demande de les doubler d'ici à 2027. Donc, vous faites le calcul. On forme à peu près 1200 personnes par an, c'est-à-dire c'est sur les 5 années ou les 3 années de formation en fonction des parcours. Moi, aujourd'hui, on a recruté 180 personnes en première année. Ces 180 personnes vont arriver en 5 ans à un diplôme d'études supérieures de la marine marchande. Et il faut qu'on passe à 230, 240 personnes en recrutement en première année. Et puis, sur les autres formations, je peux vous décliner les chiffres. Donc, voilà, il nous faut augmenter le vivier de recrutement. C'est pour ça qu'on organise des journées portes ouvertes. C'est pour ça qu'on a fait un grand live ENSM il y a encore quelques jours et qu'on est tout à fait à même de répondre aux futurs candidats qui embarqueront sur les navires.
Comment peut-on aujourd'hui, François Lambert, vous aider ?
Comment vous pouvez m'aider ? Vous pouvez inciter...
Je vous donne la parole.
Oui, là, vous m'aidez beaucoup. Vous pouvez inciter les plus jeunes générations...
Qui vous regardent et qui vous écoutent.
Et qui à s'inscrire dans ce type de parcours, à la fois des parcours professionnalisants, des parcours en 3 ans, un parcours en 5 ans et demi, le parcours d'officier polyvalent. Et d'une manière plus générale, il faut sensibiliser les Français aux faits maritimes.
Oui.
La formation maritime est une composante forte de la politique publique maritime. Et nous devons jouer ce rôle-là avec l'ONSM.
On va en parler. On va évoquer tout cela dans quelques instants, mais moi je pensais que la voie maritime, si vous me permettez l'expression en termes d'emploi, c'était une vocation. Il fallait que ce soit une vocation.
Je ne crois pas. Je pense que justement,
pendant longtemps, ça a dû l'être.
Oui, ça l'a été. Comme tout.
On est au bord de la mer, on est enfant d'officier.
Oui, mais
on devient officier soi-même.
On ne naît pas officier, on le devient. Et c'est une école qui est aussi une école de l'humilité. Je pense que l'existence précède l'essence. On doit être capable de se dire aussi que la France, dans sa composante marine nationale, c'est l'Auvergne qui a fourni le plus d'amiraux à la France.
Et
il faut être capable de régénérer un corps par des apports extérieurs. À ce titre, Parcoursup nous y aura aidé. Et effectivement, il y a des destins, des familles, d'officiers, et il faut préserver ce caractère-là. Mmh. Mais il faut aussi se résoudre au fait qu'on a d'autres personnes qui interviennent dans ce secteur.
Des sites écoles à la pointe de la technologie, la pratique au cœur de la formation. Cette école est reconnue et connue et reconnue dans le monde, hein, on me l'a dit, pour la qualité de son enseignement et qui forme des officiers navigants de qualité. Comment dire ? Votre exemple est intéressant. Vous êtes vous-même issu de la marine ? Vous avez...
Alors, moi, je suis issu des affaires maritimes. C'est une école qui est différente, l'École nationale de sécurité et d'administration de la mer, qui est hébergée d'ailleurs par l'École nationale supérieure maritime.
Oui.
J'avais fait un parcours généraliste, Sciences Po.
Sciences Po, oui.
Et puis après, j'ai passé un concours administratif pour pouvoir m'engager dans le domaine maritime, un applicatif utile dans une politique publique en construction.
C'est ça qui vous a motivé à l'époque ?
Oui, les enjeux.
Vous aviez quel âge ?
J'avais 21 ans, 22 ans.
Et à 21 ans, on pense à ça ? On se dit, j'ai besoin de m'impliquer dans.
Je pense qu'à 21 ans, et même encore plus jeune, on a des convictions et que moi, je souhaitais me rendre utile. J'ai été marqué plus jeune par l'Erika, j'ai été marqué par des catastrophes que le monde moderne a pu connaître et
oui,
je souhaitais pouvoir m'engager.
Est issu de l'île de Ré.
Absolument.
Donc ouais. Vous avez été témoin de choses, ça vous a marqué quand vous étiez gamin?
Je suis arrêté par ma maman et effectivement j'ai été témoin de tout ça. Et après c'est un métier magnifique qui fait se rencontrer un certain nombre d'acteurs à l'échelle d'un territoire qui est le ouais. territoire maritime. Des pêcheurs, des marins au commerce, des acteurs de la souveraineté. On a également le domaine public maritime. Donc j'y ai trouvé beaucoup de plaisir, l'industrie navale. Et je souhaite continuer à œuvrer en ce sens par le biais de la formation avec l'ONSM.
Construction, exploitation, sécurité des navires, électronique, les champs mécaniques, bien sûr, les champs d'action, de métier à l'intérieur de la marine marchande sont multiples. Quel est, pour terminer là-dessus, enfin on ne termine pas bien sûr, mais d'une manière générale, technicien de maintenance navale, formateur, vacataire, etc., tous les postes sont à trouver sur votre site. Quel est l'argument numéro un que vous mettez en avant pour attirer les candidats sur ces métiers de la navigation maritime?
C'est un métier hors du commun. Voilà, c'est si vous souhaitez avoir un métier hors du commun, c'est je crois la bonne définition du métier de marin. Oui, bien sûr, mais ça c'est consubstantiel. Et c'est un métier particulier, c'est un métier hors du commun. C'est-à-dire que on est un ingénieur à bord d'un navire, on est à la machine, mais au milieu de l'océan, on se forme pour arriver dans un port dont on ne connaît pas le début ou la fin. Et ça c'est absolument formidable.
Merci d'avoir eu la gentillesse d'accepter notre invitation.
Merci à vous de votre invitation.
Et vous avez une vraie passion, vous finirez ministre de la mer, j'en suis sûr.
C'est pas à moi de le dire. Je donne rendez-vous à tous les candidats pour le NSM très bientôt.
Il y a des dates.
Oui, dans le cadre de Parcoursup, hein, inscriptions qui sont à prévoir. On a également les journées portes ouvertes. Et
c'est
le 7, 21 et 28 janvier sur les différents sites. Et donc on sera heureux de vous montrer nos sites à Marseille, au Havre, à Saint-Malo, à Nantes, pour que vous voyez en réel les simulateurs, que vous voyez également les professeurs qui vous enseigneront ces différentes matières, et que vous puissiez discuter pour ceux qui souhaitent s'engager dans ces parcours avec les jeunes qui sont à l'ENSM.
Merci François Lambert.
Merci à vous.
Alors j'ai une question à vous poser. Est-ce que de votre côté, vous êtes plutôt hybride, full remote, travail à temps plein dans les bureaux ou...
Je pense que la réponse va nous être donnée juste après. Mais
parce qu'en mer, on ne peut pas faire autrement. Hein.
En mer, il y a des navires qui commencent à être téléopérés, mais c'est une... Ce sera une révolution, ce sera pour bien plus tard,
j'espère. Quand on est navigant, on ne peut pas dire « j'arrête de travailler ».
Au sein de l'école, on a un écor télétravail qui était utile. Le télétravail est, je crois, une chance, mais comme toutes les chances, il faut savoir l'encadrer.
Eh bien, voici notre rubrique décryptage. Encore une fois, on va parler du travail hybride.
BFM Business, le Club Média RH, décryptage RH.
Alors Albert, je suis ravi de rencontrer Albert Reynaud, j'allais dire Albert Semana. Semana, c'est le nom de la société.
C'est ça.
D'ailleurs, c'est Semana, il y a une explication.
Alors effectivement, c'est le mot espagnol pour la semaine que nous organisons.
La semana.
Exactement.
La semana sainte, comme on dit une fois par an.
Effectivement.
Alors, cette entreprise, vous êtes cofondateur en 2020. On va revenir sur votre mission, la vôtre, celle de votre entreprise, qui offre une solution de planification et de gestion de l'espace en SaaS, qui permet d'organiser, qui permet d'organiser efficacement les politiques de travail hybride et le flex office. Donc, toute la question qu'on se pose, et qui est intéressante avec vous, je crois, c'est de revenir sur cette histoire de travail hybride, c'est comment concilier à l'intérieur même d'une entreprise une hétérogénéité, je le disais dans le sommaire, des pratiques. Il y a des full remote, il y a le travail hybride dans la même entreprise, et c'est peut-être ce sujet qui est intéressant.
Effectivement, donc ce que l'on constate, c'est qu'aujourd'hui, le télétravail, la pratique de télétravail s'est stabilisée, ce que nous dit la NDRH, que vous connaissez, autour de un peu plus de deux jours par semaine.
L'Association nationale des DRH.
Tout à fait, un peu plus de deux jours par semaine. Mais ce qu'il est important de noter, c'est que derrière cette moyenne, il se cache une hétérogénéité des cas, avec trois populations distinctes qui émergent. Les populations, comme vous l'avez souligné, de sédentaires, donc ceux qui restent plus de quatre jours par semaine au bureau, 30%
oui,
d'entre eux.
Le classique.
Effectivement.
C'est 30% aujourd'hui.
Tout à fait. Ceux qui, au contraire, sont tout le temps en télétravail, donc plus de 4 jours par semaine.
Donc c'est à l'opposé, de l'autre
exactement.
Côté.
Eux, c'est 20%. Et le reste.
20% donc, qui ne viennent jamais au boulot.
Qui sont plus de 4 jours en télétravail par semaine.
D'accord.
Et enfin, ceux qui sont travailleurs hybrides, comme vous l'avez souligné, entre 2 et 3 jours de travail au bureau par semaine. Et la difficulté pour ces entreprises, c'est effectivement appréhender non seulement cette population croissante de télétravailleurs,
Comment gérer ?
Tout à fait, le contraste entre ces différentes populations et en termes d'équité, de productivité et de management.
C'est-à-dire qu'au fur et à mesure que le travail à distance s'est normalisé, et qu'il a essaimé un peu partout, finalement, les entreprises doivent apprendre à réorganiser pour coordonner les équipes. Et c'est là que vous intervenez ?
Effectivement. Alors, l'outil Semana, vous l'avez décrit tout à l'heure.
C'est quoi, c'est une plateforme, c'est ça ?
C'est une solution en ligne, effectivement, oui, qui va organiser à la fois les plannings de présence et le flex office, donc la gestion des bureaux, tout ça, oui, pour travailler en mode hybride, donc savoir qui est où, qui vient quand, et savoir qui s'assoit où. Mais effectivement, les entreprises doivent mettre en place des initiatives pour pouvoir mieux gérer ces populations.
Les DRH et les services généraux sont vos clients ?
Si ce sont nos interlocuteurs, effectivement, oui, au sein d'entreprises qui pratiquent le télétravail de manière générale, effectivement.
Et les collaborateurs se retrouvent aisément dans les solutions que vous proposez ?
Effectivement, de manière hebdomadaire, les collaborateurs se connectent, les managers se connectent, oui, de telle sorte à planifier leur semaine, voir qui vient quand, qui s'assoit où, choisir leur emplacement dans un contexte où souvent on a moins d'espace que d'effectifs total.
Alors votre entreprise, on va donner les données clés, comme on le fait souvent, plus de 100 clients français internationaux, bravo, en l'espace de quelques mois, puisque la société a été qu'en 2020.
Effectivement.
C'est bien ça. Vous avez vous cartonné très vite. Il y a des entreprises très connues comme les Galeries Lafayette, Ornicar, etc. Vous avez fait une levée de fonds.
Effectivement, on a fait une première levée de fonds l'année dernière et nous sommes en train de finaliser une deuxième.
De 600 000 euros.
Tout à fait.
Et une deuxième. Est-ce que vous avez des postes à pourvoir ? C'est pas prévu dans mon programme, mais j'en profite, on est là pour ça.
Oui, bah écoutez, je profite pour passer l'annonce. Nous, nous cherchons à recruter, effectivement, à la fois dans les fonctions commerciales, mais aussi marketing et développement.
Combien de personnes recherchez-vous aujourd'hui ? De qui avez-vous besoin ?
Aujourd'hui, principalement des commerciaux et un développeur et aussi des stagiaires aussi pour les écoles qui nous écoutent.
Oui. Et où est installée votre société Semana ?
Nous sommes dans le Sentier, dans le deuxième arrondissement.
D'accord. Quels sont les plus pour vous rejoindre ? À qui vous vous adressez ?
Alors, je vous encourage à nous rejoindre sur www.semana.io, bien directement sûr, sur la section...
.io.
Exactement.
D'accord. Et oui, vous ne m'avez pas répondu. Les plus que vous avez à offrir ?
Alors les plus, c'est qu'effectivement, on est une start-up, donc en pleine création, on a tout à écrire, il y a énormément de choses à faire. On est sur un sujet qui est très excitant, dans la mesure où il n'y a pas aujourd'hui une seule entreprise qui se pose pas la question de la gestion de leur travail hybride et des bureaux, et un esprit d'initiative et d'innovation très présent. Et
j'ai oublié de préciser que votre concept, votre produit, entre guillemets, votre plateforme, répond à l'ensemble des critères des plans d'assurance sécurité des entreprises. Ça veut dire quoi ?
Alors, on répond à certaines effectivement obligations légales dans le sens où les entreprises vont devoir comprendre, contrôler la présence ou pas des collaborateurs.
Et comment on s'y prend pour contrôler tout ça au fait ?
Alors c'est du déclaratif. Les collaborateurs vont pouvoir déclarer à chaque semaine, chaque jour la présence ou pas de leur.
C'est pas un peu dangereux, non, de laisser la.
Alors c'est du déclaratif dans le sens où on n'est pas dans la géolocalisation évidemment et donc c'est pas à l'insu du plein gré des collaborateurs.
Oui, en tout cas c'est un vrai sujet. Vous êtes d'accord ?
Tout à fait.
Le travail hybride, comment organiser ? Je crois que c'est une bonne question. Vous avez bien posé le problème. Comment organiser le travail, notamment pour un DRH ou pour des services RH ? Eh ben, dans une même entreprise, ceux qui veulent ou ceux qui vont travailler de chez eux pour 4 jours par semaine, c'est ça ?
C'est ça.
4 jours par semaine, ou ceux qui restent... Non, 4 jours dans l'entreprise, d'abord. Ça, le traditionnel, entre guillemets, ceux qui travaillent de chez eux, ceux qui vont venir de temps en temps, etc. Un vrai sujet. Votre avis là-dessus, d'ailleurs, c'est intéressant. Alors,
évidemment,
vous qui baignez là-dedans.
C'est un vaste sujet et je dirais qu'il y a un certain nombre de points de vigilance pour ces organisations qui opèrent dans ce nouveau mode de travail. Ouais. Le premier, peut-être, que je peux mettre en avant, c'est l'importance de l'accompagnement des employés au moment de l'onboarding, les nouveaux arrivants. C'est le moment où on apprend son métier, c'est le moment où on crée des liens avec les autres membres de l'organisation. Donc, un point de vigilance tout particulier. Deuxièmement, peut-être les managers qui doivent être formés, ils sont démunis face à cette nouvelle organisation du travail. Et ils sont en première ligne face à ces collaborateurs qui sont en télétravail. Et dernier élément, peut-être la santé mentale, vous l'avez un petit peu évoqué, la santé mentale, identifier les signaux faibles permettant de voir les populations en décrochage et pouvoir les accompagner de manière adéquate.
Il semble, hein, en lisant un peu dans la presse et toutes les revues un peu spécialisées, il semble qu'on en revient du télétravail. Il semble que de plus en plus de collaborateurs demandent à revenir dans l'entreprise.
Alors,
il semble.
J'aurais un avis peut-être un peu différent, dans le sens où ce qui est vrai, par contre, c'est qu'il y a une hétérogénéité des situations, ce qui donne peut-être l'impression d'avoir un mouvement de balancier, mais la réalité, comme on l'a évoqué, c'est qu'il existe trois populations, ceux qui veulent faire du télétravail.
Ça, je suis d'accord, mais il semble qu'il y ait une volonté de rejoindre l'entreprise, voilà.
Alors, là où je vais dans votre sens, c'est ce besoin qui qui persiste de se retrouver.
Ben,
et que pour ça, les entreprises compensent en mettant des rituels pour se retrouver, soit de manière sur l'ensemble de l'entreprise de manière annuelle, ou alors les équipes, les off-site, etc., etc. Donc, ce qui persiste et qui va dans votre sens, c'est effectivement ce besoin de se retrouver, de créer du lien et de construire le capital social de l'entreprise.
Alors, je vous propose de trouver terminer notre émission par la start-up qui recrute. Nous sommes ravis de mettre dans la lumière Ligério. Voici Ligério, la start-up.
BFM Business, le club média RH, la start-up qui recrute.
Bonjour Jean de Varine Boin.
Bonjour, merci de me recevoir.
Je suis ravi de vous rencontrer également. Vous êtes fondateur de Ligério, 28 collaborateurs. C'est ça ?
Exactement.
Date de création de l'entreprise. On fait la fiche d'identité tout de suite, comme ça on comprendra mieux.
Alors, Ligério a été créé en octobre 2019.
Oui.
Et les premiers collaborateurs sont arrivés pendant l'été 2020. Voilà. Et maintenant, nous sommes une petite trentaine, effectivement.
Ligério. Installé à Paris ?
Non, nous sommes installés, c'est notre fierté. Nous sommes
installés à Loche.
En Indre-et-Loire.
Et à La Rochelle. Voilà.
Exactement, on a un autre bureau à La Rochelle. Mais le siège social et le cœur de l'entreprise est à Loche, et nous sommes une entreprise de.
C'est le berceau commerce. De l'entreprise, on peut dire ça.
C'est le berceau de l'entreprise.
De la famille.
C'est le berceau.
De votre famille, peut-être.
Pas le berceau, mais enfin, je suis originaire de Loche, oui, tout à fait.
Très bien. Et oui, vous n'avez pas eu envie, comme les autres, de venir à Paris. Vous avez bien raison, c'est comme ça que la France se développe. Alors, le métier d'abord de votre start-up, Ligério.
Alors, Ligério.fr, c'est un site de vente en ligne. De matériaux de construction, et essentiellement des revêtements de sol.
D'accord.
Et nous vendons, nous avons 3000 références sur le site internet.
Vous ne fabriquez pas, vous ?
Nous ne sommes pas fabricants, nous sommes distributeurs.
Intermédiaires, distributeurs.
Donc, nous ne sommes pas une marketplace non plus, on est revendeurs de matériaux plutôt de qualité, de matériaux authentiques, donc des parquets, des dallages en pierre, des carrelages, des tomettes, etc.
Panier moyen, et pas moyen. Panier moyen, 2500 euros, marchandises livrées. Ouais, c'est ça. C'est 450 tonnes par mois. C'est votre job aujourd'hui.
Oui, on vend des matériaux qui sont lourds. Hein. C'est,
oui,
on vend des revêtements de sol, des pavés. Vous savez, les pavés, ça peut aller.
Ça va très vite.
400 kilos le mètre carré sur un pavé. Alors,
c'est vrai que c'est impressionnant de mettre dans votre document 450 tonnes. Alors aujourd'hui, vous développez. Qui sont vos clients ?
Alors nos clients, à l'origine, n'étaient que des particuliers.
Oui.
J'avais créé cette entreprise en visant le marché des particuliers. Puis finalement, de plus en plus, les professionnels sont arrivés. Et donc aujourd'hui, c'est 60% de particuliers. 40% de professionnels. Les professionnels sont des architectes, des entreprises du bâtiment, des maîtres d'œuvre, des carreleurs, des maçons, etc.
C'est quoi le nom Ligério qui est à l'origine de l'entreprise ?
Alors Ligère, ça veut dire la Loire en latin. Et comme on est installé dans la vallée de la Loire, alors on est un peu au sud de la vallée de la Loire, mais c'est quand même encore on est vraiment dans la région
d'où Ligério.
Exactement.
Parfait. Exactement. Alors vous cherchez vous avez 6 postes en CDI à pourvoir et 3 postes d'alternant. Et je rappelle que vous êtes spécialisé dans le revêtement des sols.
Voilà exactement.
Qui recherchez-vous exactement les profils ?
Alors écoutez, donc on vient de finaliser notre première levée de fonds, c'était autofinancé pendant les deux premières années, et donc suite à cette levée de fonds, effectivement, on recrute des collaborateurs, alors on cherche un directeur des opérations.
J'ai vu un bras droit du dirigeant, c'est
voilà,
le dirigeant.
Aussi. Oui, tout
un
à fait.
Un assistant ou une assistante de direction.
Alors non, ça sera plus un travail commercial. Voilà, moi je m'occupe d'un certain nombre de clients.
D'accord.
En direct, et ce sera plus ce qu'on appelle les grands comptes. Alors effectivement, donc le bras droit du dirigeant, un directeur des opérations qui va s'occuper de la logistique, des livraisons, du stockage.
Poste directeur des opérations.
Voilà, exactement.
C'est quoi ?
Alors on livre tous nos clients et il y a une complexité logistique dans la marchandise qu'on livre. De plus, on développe du stock que nous n'avions pas. Donc voilà.
Responsable marketing.
Responsable marketing de un. Plus orienté contenu, voilà le contenu du site, les fiches produits, et un qui sera plus orienté marketing digital, acquisition autour des SEA et du SEO. Et puis,
alors où ces postes sont-ils à pourvoir ? À Loche ?
Alors
sur l'île de Ré. À La Rochelle, pardon.
Non, ils peuvent rester à l'île de Ré, c'est pas très loin.
Bon choix.
Non, alors tous les postes sont à pourvoir. Sauf le directeur des opérations qui est exclusivement à Loche, mais sinon les postes sont à pourvoir soit à Loche soit à La Rochelle. Mais on essaye de promouvoir un maximum l'emploi à Loche. On est très fiers de cette implantation dans un territoire rural. Et pour nous, c'est important qu'un maximum de collaborateurs puissent être présents à Loche.
Vous n'allez pas appeler Albert Reynaud pour mettre en place la flexibilité?
Bah, on propose du télétravail, bien sûr.
Ah, n'empêche pas l'autre, quand même.
Ah ben voilà, il y en a partout.
N'empêche pas l'autre. Ça mais bon, je pense qu'une jeune entreprise comme la nôtre, il faut quand même un certain nombre de présence dans l'entreprise.
Vous êtes en construction.
Et voilà, on est en construction.
C'est le cas de le dire. Vous qui êtes dans le revêtement des sols. Quels sont les intérêts pour ceux qui vous regardent sur BFM Business TV ou qui vous écoutent sur BFM Business Radio? Vous leur dites quoi pour les attirer, ces candidats, à Loche ou à La Rochelle?
Bah, ce sont deux super régions françaises. Une au bord de la mer, c'est pas...
Et l'autre au bord de la Loire.
Et l'autre au bord de la Loire. Non, mais c'est voilà, d'abord sur le plan de leur vie personnelle, un cadre de vie qui est quand même agréable. Non pas que de vivre dans des grandes métropoles soit désagréable, mais c'est vrai que c'est un autre cadre de vie qui est très sympathique. Et puis bien sûr, une ambiance de travail, une flexibilité, justement, une possibilité de télétravail qui est quand même, y a une très bonne ambiance chez Ligério. Vraiment, je crois que tous les collaborateurs que nous avons sont très heureux d'y travailler.
C'est ça, les start-up.
Je crois que ça, oui, mais là, on peut pas tout avoir, mais effectivement, forcément, on compense évidemment avec une.
Bon, il y a des salaires quand même, on est payé.
Bien sûr, on est bien payé pour la région. On est très bien payé chez Ligério.
Ah, mais ça, c'est une information importante que vous devez, sur laquelle vous pouvez insister. On est bien payé.
On est très bien payé, il y a de l'intéressement, il y a des BSPCE, il y a bien sûr. Ah,
très bien, bravo. Mais écoutez, j'étais ravi de faire votre connaissance, j'espère que ça va vous aider. Donc, si vous habitez du côté de Loche ou de La Rochelle ou encore de l'île de Ré, qui est la commune d'origine de François Lambert, le DG de l'École nationale supérieure maritime, ben vous pouvez postuler. Merci à vous, Albert Reynaud, c'est Mana. Et Poste à Pouvoir aussi. Voilà, je vous souhaite un bon week-end et une bonne semaine. À la semaine prochaine. Salut.
BFM Business, le Club Média RH, la parole aux entreprises qui recrutent.